En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc pour l'enseignement, nous sommes dans un texte qui est un enseignement qu'a donné Ringu Rinpoche sur les fondamentaux des trois véhicules. Donc pour les personnes nouvelles, je rappelle qu'il y a dans le Dharma, le Dharma c'est l'enseignement bouddhiste, trois grands courants. Ce qu'on appelle le petit véhicule, mais on évite maintenant d'appeler ce véhicule-là le petit véhicule parce qu'il peut y avoir un aspect un peu péjoratif. Rinpoche appelle ce courant le Shravakayana. C'est ce qu'on appelle aussi ordinairement le Theravada. Cette forme de bouddhisme se retrouve au Sri Lanka, Thaïlande, Cambodge, Birmanie, Laos. Voilà. Dans ces pays, c'est vraiment cette forme de dharma qui est présente. Le pratiquant cherche la libération de la souffrance, puisque c'est l'objectif de tout l'enseignement qu'a donné le Bouddha. Ensuite, il y a le grand véhicule. Le grand véhicule, lui, on l'appelle le grand véhicule parce que, comme je le disais tout à l'heure, la motivation, elle s'étend à tous les êtres. Elle s'étend à la libération de tous les êtres et non pas une libération individuelle. Mais dans le grand véhicule, on ne peut pas concevoir son propre éveil sans l'éveil de tous les êtres. Et vous avez un courant dans ce grand véhicule qui s'appuie sur les sutras, les enseignements publics que le Bouddha a donnés, et qui est le Chan en Chine, et qui est le Zen. Le bouddhisme Zen japonais est de ce courant-là. L'autre courant, qui forme le troisième véhicule. Mais c'est un courant du grand véhicule. Donc il faut qu'il y ait cette motivation. C'est le bouddhisme tibétain, et puis une école japonaise qu'on appelle le Shingon, et ce troisième courant forme ce qu'on appelle le Vajrayana, ou le bouddhisme du diamant. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le Vajrayana, le bouddhisme tibétain, ne repose pas uniquement sur les tantras, une autre forme d'enseignement que le Bouddha a donnée. Il repose aussi sur les sutras. Il s'appuie aussi sur le Vinaya, c'est-à-dire tous les préceptes de vie pour développer l'éthique, la conduite éthique notamment, que ce soit les préceptes pour les laïcs, qu'on appelle les fidèles laïcs, que ce soit les préceptes pour les moines et les nonnes. Donc tout ceci se retrouve dans le bouddhisme tibétain. Il s'appuie aussi sur l'Abhidharma, c'est-à-dire tous les enseignements que le Bouddha a donnés concernant la vacuité. Voilà. Donc, le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, est un véhicule qui englobe absolument tous les aspects, tout de l'enseignement qu'a donné le Bouddha. L'Abhidharma, le Vinaya, les sutras et les tantras. Il faut repréciser un peu ça parce que beaucoup de personnes pensent que le Vajrayana, le bouddhisme tibétain, ne s'appuie que sur les tantras. C'est faux. Alors, nous sommes dans le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, selon les sutras, comme dans le Zen. Et dans le Shravakayana, dans le petit véhicule, entre guillemets, Rinpoche redéveloppait ce que l'on entend par les quatre nobles vérités qui sont qui forme la doctrine bouddhiste pour toutes les écoles. Donc un pratiquant du bouddhisme tibétain qui ne connaît pas à fond les quatre nobles vérités, il a tout faux. Parce que tous les enseignements que le Bouddha a donnés par la suite, c'est un développement de ces quatre nobles vérités. Tous les moyens qu'il a mis en place, notamment par les moyens spécifiques au bouddhisme tibétain, enfin au Vajrayana, ce sont des moyens pour développer tel ou tel aspect de ces quatre nobles vérités. Donc, un pratiquant bouddhiste de quelle école qu'il soit, doit absolument connaître à fond les quatre nobles vérités. Et on a vu ça dans les mois précédents, hein, comment développer et comprendre ces quatre nobles vérités. On rencontre dukkha, la souffrance. Quelle est l'origine de dukkha, de la souffrance? Ça, c'est la deuxième noble vérité qui, à mon sens, est celle qui est vraiment centrale dans notre réflexion. Parce que si l'on ne cible pas de façon juste l'origine de dukkha, on va se tromper eh bien, de traitement pour mettre une fin ou permettre une cessation à dukkha. Donc il faut absolument faire l'expérience de l'origine de dukkha. Troisième noble vérité, il y a une cessation possible à dukkha, et ça nous devons bien le comprendre quand on étudie la cause de dukkha, la deuxième. Et la quatrième noble vérité, c'est comment faire, quel est le chemin que je dois suivre pour arriver à cette cessation. Laquelle cessation, on l'appelle l'éveil quand eh bien, on le réalise. Voilà. Ça, on a vu ça. Et nous sommes maintenant dans le grand véhicule sutra, le sutra yana, yana voulant dire véhicule. Et pour cela, Rinpoche s'appuie sur un texte du 10e ou 11e siècle de Tomé Zangpo, qui est les 37 pratiques de Bodhisattva. Alors dans le grand véhicule, le terme Bodhisattva est un terme qui revient très souvent. C'est ce qui définit l'esprit ou l'individu qui a l'esprit typique du grand véhicule, c'est-à-dire cette motivation tournée vers l'éveil, la réalisation de l'éveil de tous les êtres, faire en sorte que tous les êtres eh bien, soient totalement libres de la souffrance et de ses causes. Donc nous sommes tous des bodhisattvas. Pas seulement ceux qui ont pris refuge dans le bouddhisme tibétain ou dans le zen. Mais dernièrement à Strasbourg, le Dalai Lama a donné les vœux de Bodhisattva. Et bien, tous ceux qui étaient là sont tombés dans la soupe. Hein. Alors même si ensuite on réaffirme cette motivation du Bodhisattva par le fait de prendre des vœux de Bodhisattva, mais par le fait d'être pratiquant du grand véhicule, nous sommes tous des Bodhisattvas. Alors nous sommes des petits Bodhisattvas, des apprentis Bodhisattvas, si vous voulez. Mais cet esprit du Bodhisattva doit habiter notre pratique. Elle doit sous-tendre notre pratique continuellement. Alors nous en sommes à la strophe 5 sur les 37 pratiques. Donc on en est encore vraiment au début du chemin de Bodhisattva, tel que ce texte le décrit. Alors je vous lis à deux reprises la cinquième strophe. Quand nos amis sont tels, quand leur compagnie les trois poisons augmente, et que l'indifférence envers les tâches de l'étude, de la réflexion et de la méditation s'élève, lorsqu'ils causent la perte de l'amour et de la compassion jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, alors se tenir à l'écart d'amis à ce point trompeur est la pratique d'un bodhisattva. Je vous la relis. Quand nos amis sont tels, quand leur compagnie les trois poisons augmente, et que l'indifférence envers les tâches de l'étude, de la réflexion et de la méditation s'élève, lorsqu'ils causent la perte de l'amour et de la compassion jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, alors se tenir à l'écart d'amis à ce point trompeur et la pratique d'un bodhisattva. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans le bouddhisme par les trois poisons? Les trois poisons, c'est le désir-attachement, c'est l'aversion, sous toutes ses formes, la haine, ça peut être la colère, l'irritation, bon, etc. Et puis, on appelle ça l'opacité mentale. L'opacité mentale, on peut traduire ça par l'indifférence. D'ailleurs, il en parle. Hein? Et que l'indifférence envers les tâches de l'étude, la réflexion et la méditation augmente. Donc l'indifférence. Vous rajoutez à ces trois poisons la jalousie et l'orgueil, et là vous avez la brochette qui forme ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire le cycle des renaissances, c'est-à-dire le cycle de la souffrance. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces cinq facteurs perturbateurs sont présents dans notre esprit. Et surtout, lorsqu'ils s'élèvent dans notre esprit, nous agissons sous leur emprise. Donc il n'y a aucune liberté de notre esprit, aucune liberté d'action quand nous agissons, parce que nos actes sont dictés par ces trois poisons. On agit parce que l'on veut absolument quelque chose, ou on agit parce qu'on ne veut pas cette chose-là, et ça va jusqu'au rejet, jusqu'à l'aversion et jusqu'à la haine, ou on agit en gros parce qu'on s'en moque totalement, quoi. On est indifférent à cet objet. Voilà. Ces trois-là, on appelle ça les trois poisons de l'esprit, parce que chacun de nos actes, si on décortique bien chacun de nos actes, on constate qu'ils sont tous sous l'influence d'un de ces trois poisons. Et ça, c'est ce qu'on appelle le voile des facteurs perturbateurs. Alors, on peut se demander, mais où est notre liberté, quoi, dans notre façon d'agir? Est-ce que je suis vraiment libre quand je dis, mais je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux, quoi? Est-ce que je ne suis pas la petite marionnette dont les fils sont tenus, par tel ou tel poison, quoi, présent dans notre esprit? Ça, c'est un critère vraiment à bien garder, je dirais, dans l'esprit, parce que si ces poisons augmentent pendant notre cheminement spirituel, on a tout faux. Il faut surtout s'arrêter. On met à profit les éléments d'une voie spirituelle, mais alors à contre-courant, quoi. La pratique méditative, elle doit faire en sorte que ces trois poisons diminuent. Et alors, ceux qui pratiquent depuis des années, vous devez vraiment vous poser la question, est-ce que mon attachement diminue? Est-ce que mon aversion, sous toutes ses formes, diminue? Est-ce que mon indifférence diminue? Si ces trois poisons diminuent, est-ce que les qualités augmentent? Est-ce que j'ai un peu plus d'ouverture, de tolérance, de patience, d'attention, d'amour, de compassion, pas seulement pour mes proches, mais est-ce que je sens que ces qualités dans mon esprit se développent de façon un petit peu plus vaste, un peu plus équanime, c'est-à-dire même pour les personnes pour qui je n'ai pas de lien particulier, est-ce que je suis davantage touché par leur souffrance, par exemple? Rien à voir avec la pitié. Mais la compassion, c'est un moteur. Si je suis touché par leur souffrance, qu'est-ce que je mets en place pour les aider à moins souffrir? Bon. Alors, le texte dit, quand nos amis sont-elles, quand leur compagnie, les trois poisons augmentent? C'est-à-dire qu'en tant qu'apprenti bodhisattva, il nous faut réunir des conditions, un environnement qui soit favorable au développement de ces qualités et à la diminution de ces trois poisons. Et quelquefois, notre environnement n'est pas si favorable que cela. Un bodhisattva doit s'écarter de cet environnement. Parce que ce qui est primordial pour lui, c'est sa pratique de bodhisattva, son attitude de bodhisattva. Alors, il parle aussi de l'indifférence. Quand l'indifférence envers les tâches de l'étude, de la réflexion et de la méditation s'élève, si notre environnement favorise plutôt la paresse par rapport à l'étude, la réflexion et la méditation, il faut se couper de cet environnement. Il faut savoir s'écarter, en tout cas, de cet environnement. Alors, dans ce texte, alors que nous sommes dans la pratique de Bodhisattva, on pourrait se dire, mais est-ce que ce n'est pas contraire à l'esprit de Bodhisattva, qui consiste à prendre soin, à avoir de l'intérêt pour tous les êtres, quels qu'ils soient? Donc, on n'imagine pas de devoir s'écarter de tels êtres, alors que le Bodhisattva doit en prendre soin. Si, à notre stade, ça fait partie du chemin. notre esprit n'est pas suffisamment stable, n'est pas suffisamment entraîné à développer un amour stable, vaste, équanime, une compassion vaste, équanime, etc. Nous sommes influençables. Nous sommes influençables par notre environnement. Et lorsque celui-ci n'est pas favorable au développement de ses qualités, eh bien, il faut savoir s'en préserver. Non pas de façon définitive, mais se dire pour le moment, eh bien, je dois m'en préserver parce que ça va à l'encontre de ma pratique. Ça crée plutôt des obstacles à ma pratique. Et dans 10 ans, peut-être, eh bien, là, mon esprit sera suffisamment solide, entraîné, stable, et je pourrai vivre, eh bien, ces situations sans être influencé, sans être ébranlé par cet environnement. Et là, il n'y aura pas de problème. Alors, à ce sujet, c'est pourquoi les centres du Dharma sont dans des lieux retirés, plutôt au silence, de façon à créer des conditions plus favorables pour établir cette vigilance dans notre esprit. Et puis d'autres qui sont plus avancés pour établir ou pour revenir à la conscience de la nature des phénomènes ou à la nature de l'esprit. Il y a une façon de venir dans un centre. Je sais bien qu'on ne laisse rien derrière la porte, mais votre rucksack, laissez-le dans votre voiture quand même, quand vous venez, quoi. C'est-à-dire que les tendances de l'esprit, bien sûr qu'elles seront là. Mais s'il n'y a pas vigilance à ce qui se passe dans notre esprit, alors qu'on est dans un centre du Dharma, on dénature le pourquoi du centre du Dharma. D'autant que vous avez des personnes qui viennent pour faire ce travail-là sur elles-mêmes. Si c'est la foire à côté d'elles, si c'est des rigolades, ou si c'est des conversations qui n'intéressent personne, et là, s'il n'y a pas conscience que ça peut gêner ceux qui sont là vraiment pour pratiquer, là, il y a un problème. Alors ça, je le re-signale là, juste, c'est une petite parenthèse, hein. Mais il faut vraiment avoir conscience de ça quand vous mettez les pieds à l'us. Et on commence à en avoir assez de devoir se battre avec les pipelettes qui n'arrêtent pas de jacter sans arrêt, quoi, toute la journée. Hein. Il y a des personnes qui sont franchement gênées, quoi. Et il y a des personnes qui nous ont dit « moi je ne viens plus ». Parce que le week-end, ben, impossible d'avoir un moment de calme, quoi. Ah, tout de suite, on est là à dire tout ce qui passe à travers l'esprit, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, les dernières vacances, les photos aussi, etc. On n'est pas dans un centre du Dharma pour ça, quoi. À la limite, aller sur le chemin et puis discuter de ça, quoi. Mais dans le centre du Dharma, les personnes ont besoin de calme et de silence. Et ça, c'est le minimum de respect à avoir pour la Sangha que de respecter eh bien, ce silence quoi, et ce calme. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais de toute façon, je vais le retenir dans tous les chulings parce qu'il y a des week-ends, franchement, ça déborde, quoi. Et il y a des personnes qui se plaignent. Et qui se plaignent. On reçoit des mails aujourd'hui en disant « le week-end dernier, c'était très bien, mais alors, pas un moment de calme, quoi. Pas un moment de silence, quoi. » Enfin, voilà. Ça, c'est l'environnement qui fait que, eh bien, les trois poisons peuvent augmenter. Donc, ce n'est pas un environnement favorable. Lorsqu'il cause la perte de l'amour et de la compassion jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, alors se tenir à l'écart d'amis à ce point trompeur est la pratique d'un bodhisattva. C'est-à-dire que notre pratique spirituelle, elle doit nous modifier, elle doit nous transformer, peu à peu évidemment, hein. C'est vraiment pas à pas, mais elle doit nous transformer. Alors que dit Rinpoche là-dessus ? Oui, on pourrait se demander si cette instruction entre en conflit avec l'idéal du bodhisattva d'aider et de soutenir tout le monde. Il n'y a pas de contradiction, dit Rinpoche, parce que l'entraînement d'un bodhisattva doit être un processus progressif en accord avec ses capacités individuelles. Voilà. Alors, ces capacités individuelles, ça suppose aussi que nous connaissions nos limites. Alors ça, c'est vraiment un premier signe du Bodhisattva, une première marque du Bodhisattva. Le Bodhisattva ne veut pas sauver tout le monde. Son idéal est de sauver le monde entier. Mais il sait qu'aujourd'hui, où il en est, il ne peut pas sauver tout le monde entier. Et il doit connaître ses limites. Pourquoi c'est important de connaître ses limites? Parce que si on dépasse les limites, eh bien, toutes les qualités disparaissent. Il n'y a plus possibilité de maintenir la vigilance dans notre esprit. Plus la possibilité de maintenir la conscience de ce qui se passe dans notre esprit à chaque instant. L'attention ne peut plus être présente. Quand vous êtes saturé, vous ne pouvez pas être vraiment présent. Quand vous êtes trop fatigué pour continuer, vous ne pouvez pas être présent, etc. Donc connaître ses limites, eh bien, c'est un acte de Bodhisattva. Notre problème, c'est que ne connaissant pas bien nos limites, nous savons que nous les dépassons quand nous sommes dans l'irritation, quand nous sommes dans l'overdose, on ne peut plus supporter. Voilà, là on se dit, ouh, là il faut que j'arrête et que je me repose. Mais on a éclaboussé combien de personnes avant de prendre conscience que là nous avons atteint nos limites. Et je vous l'ai déjà raconté, mais ça me fait toujours penser au Père Gilbert, ce prêtre des Loubards, hein, qui, pendant 6 jours de la semaine, il œuvre dans des conditions extrêmement difficiles et que le dimanche soir, il est obligé d'aller s'enfermer dans un monastère contemplatif où là, c'est le silence total pendant 24 heures et il dit qu'il en a absolument besoin. Bon, ben, il connaît ses limites. Mais à tel point que si quelqu'un lui téléphone le dimanche soir en lui disant « Eh bien, je suis au bord du suicide », il lui répond « Attendez mardi ». Sous-entendu, je ne peux pas vous aider. Je suis hors limite, là. Voilà. À nous de savoir quelles sont nos limites, en sachant que ces limites, elles bougent, et qu'avec la pratique, plus nous pratiquons, et bien plus les limites peuvent se repousser, quoi. Hein. Voilà, Rinpoche dit « Être disposé à procéder avec prudence, pas à pas, est de la plus grande importance. Si nous devenons plus mauvais par souci de rendre un petit service à quelqu'un, ce n'est ni sage, ni utile. L'objectif est d'être de la plus grande aide possible à autant d'êtres que possible. Nous ne devrions pas aider d'une manière qui affecte défavorablement ou qui affaiblit notre capacité à le faire dans le futur. » Donc avoir aussi une vue à long terme de notre cheminement. Donc vous voyez, on est à la 5e strophe là, de la pratique de Bodhisattva. Nous en sommes au début. Hein. Quand on en sera à la 37e, je ne sais pas trop ce qu'il va proposer Tomé Zangpo. Mais à la 5e, ça demande déjà beaucoup de discernement, beaucoup de bon sens et beaucoup d'écoute de soi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du nombrilisme. Il y a déjà un aspect sagesse dans ce discernement à avoir. Et la 6e strophe est liée à cette 5e. Lorsqu'on se fie à quelqu'un dont la compagnie supprime tous les défauts et qui est cause d'un accroissement de nos qualités semblables à la lune montante, alors chérir cet authentique ami spirituel plus intensément que notre propre corps est la pratique d'un Bodhisattva. Je vous la relis. Lorsqu'on se fie à quelqu'un dont la compagnie supprime tous les défauts et qui est cause d'un accroissement de nos qualités semblables à la lune montante, alors chérir cet authentique ami spirituel plus intensément que notre propre corps est la pratique d'un Bodhisattva. Et Rinpoche l'a dit, on fait référence là à l'ami spirituel, mais on fait référence de façon plus large à la Sangha, à la communauté de ceux qui sont sur le chemin et qui peuvent nous aider. Et la Sangha, eh bien, est un des 3 joyaux, quoi. C'est Bouddha, Dharma et Sangha. Et ce n'est pas gratuit que la Sangha fasse partie des 3 joyaux. La Sangha est un des 3 joyaux qui peut vraiment nous inspirer pour notre cheminement. Et puis, il y a la notion, eh bien, de l'ami spirituel. Je ne parle pas du lama racine. Nous ne sommes pas dans le Vajrayana. Nous sommes dans le Sutrayana. Et là, on fait référence au lama racine. Le lama racine. Non, pas le lama racine, pardon. L'ami spirituel. L'ami spirituel, pas le lama racine. L'ami spirituel. C'est curieux, en Occident, on accepte assez difficilement que dans notre cheminement spirituel, on ait besoin d'un ami spirituel, on ait besoin d'un instructeur, on ait besoin d'un guide. On n'a rien fait dans notre vie jusqu'à maintenant sans être guidé, quoi, sans instructeur. Faites n'importe quel sport, faites n'importe quel jouer de n'importe quel instrument de musique. Il ne s'agit pas simplement d'aller acheter une bonne méthode, mais il nous faut aussi un guide sachant nous faire, sachant nous, comment, nous permettre d'appliquer cette méthode. Dans la voie spirituelle, c'est pareil. On ne peut pas. On peut commencer en lisant des bouquins. Mais très vite, on se rend compte qu'il manque quelque chose quand même. Alors, l'ami spirituel, le terme ne traduit pas de façon très correcte le terme tibétain, Gewe Shenyen. Gewa, c'est la vertu. Donc l'ami spirituel, c'est celui qui nous montre la vertu. Mais c'est-à-dire qu'il la vit. C'est pas quelqu'un qui prêche la vertu et puis qui fait n'importe quoi à côté, quoi. Ça, c'est un autre problème aussi, hein. Dans beaucoup de voies, les enseignements sont très, très beaux, très profonds, mais ceux qui le pratiquent et qui sont censés montrer qu'ils le pratiquent ne sont pas toujours un exemple de l'opérativité, on va dire, de ces enseignements, quoi. Gewe Shenyen, oui, c'est l'ami de vertu. C'est pourquoi, de temps en temps, on traduit ce terme par l'ami de bien. Bon. Ami spirituel, le terme ami est important. Qu'est-ce qui caractérise deux individus qui sont amis, si ce n'est la confiance? Et une confiance réciproque, et une confiance solide. Mais cette confiance, elle se construit. On n'est pas ami avec quelqu'un simplement parce que il est sympathique, parce qu'il est beau, parce que si, parce que ça, etc. Ce n'est pas les éléments qui vont créer une telle relation. La confiance, elle se construit. Avec notre ami spirituel, il faut qu'il y ait cette confiance. Et cette confiance doit être mutuelle, c'est-à-dire elle doit être aussi de la part eh bien, de l'ami spirituel vis-à-vis de la personne. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir confiance? C'est le fait de mettre en pratique les instructions que cet individu nous donne, et puis de voir eh bien, s'il y a une transformation de notre esprit. Mais en s'assurant que ces instructions sont bien des instructions que les maîtres eux-mêmes transmettent et que le Bouddha a transmis. C'est-à-dire nous nous inscrivons dans une lignée de transmission, dans une famille spirituelle, et on ne peut pas tout mélanger. Et il y a une méthode. Il faut que l'instructeur, eh bien, suive lui-même cette méthode. Mais cette confiance ne peut pas s'établir simplement sur l'affect. Et en Occident, on est très bon hein, pour établir des valeurs que l'on considère comme absolues simplement sur le sentimentalo-affectif, quoi. Ça, ce n'est absolument pas un critère suffisant. Lisez les textes sur la relation avec le lama, etc. Comment déterminer si ce lama peut être considéré comme notre ami spirituel? Quelles sont les qualités qu'on doit sentir chez lui ou chez elle, etc. Les textes décrivent très bien tout ça. Mais une fois que la relation est établie, eh bien, on doit parler de notre pratique à l'ami spirituel. C'est curieux, il y a des personnes qui ne vont jamais parler de leur pratique. Mais comment évaluer par soi-même où nous en sommes sur le chemin? Il nous faut quelqu'un d'un peu plus avancé que nous, même s'il n'a pas fait encore tout le chemin, mais pour nous montrer les écueils, pour nous signifier les antidotes quand on rencontre tel ou tel obstacle, et aussi pour nous dire eh ben, que là, tout va bien, eh bien, à partir de ça, voilà comment t'en servir pour aller plus loin sur le chemin. Mais on a besoin d'échanger sur notre pratique. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller le voir tous les 8 jours. Mais quand on sent qu'il y a un truc qui coince dans notre pratique, il faut chercher par soi-même comment dépasser l'obstacle. Mais quand on n'y arrive pas, il faut aller le voir et lui poser des questions. Et rappelez-vous que dans le Dharma, il faut toujours demander 3 fois l'instruction. C'est pourquoi vous avez fait 3 prosternations tout à l'heure pour la requête de prendre refuge. Parce que le lama a besoin de savoir que l'instruction que vous demandez, eh bien, ce n'est pas un phénomène de mode. Ce n'est pas parce qu'il y a le copain qui vous a dit « moi je fais ci, ah bon, alors attends, je vais lui demander ». Ça ne marche pas comme ça. Il a besoin de savoir aussi que l'instruction que vous demandez, elle est importante pour vous. Donc, ne soyez pas surpris s'il vous dit « oui, on verra plus tard ». Ce n'est pas du tout qu'il vous envoie balader. Mais de votre côté, il ne faut surtout pas vous dire « bon, il m'a répondu ça, donc j'attends qu'il vienne ». Ce n'est pas lui qui viendra. Il faut qu'une deuxième fois, vous y alliez, et à la troisième fois, il est obligé de vous dire oui. Mais ça, c'est vraiment dans la culture asiatique. Et pour nous, occidentaux, on a un peu de mal avec ça. Alors, il y a des petits malins qui font « Lama, je peux vous demander ça ? Lama, je peux vous demander ça ? Lama, je peux vous demander ça ? J'ai demandé 3 fois, vous êtes obligé de dire oui. » Ça ne marche pas non plus comme ça. Voilà, c'est le sens de cette strophe, l'importance de l'ami spirituel et l'importance de la sangha. 7e strophe. Elle décrit la prise de refuge. Ceux qui sont eux-mêmes enchaînés dans la prison du cycle des existences, tels les dieux du monde temporel, à qui peuvent-ils accorder protection ? Lorsque nous cherchons un abri, prendre refuge en les rares et sublimes joyaux qui ne nous feront pas défaut est la pratique de Bodhisattva. Je la relis. Ceux qui sont eux-mêmes enchaînés dans la prison du cycle des existences, tels les dieux du monde temporel, à qui peuvent-ils accorder protection ? Lorsque nous cherchons un abri, prendre refuge en les rares et sublimes joyaux qui ne nous feront pas défaut est la pratique d'un bodhisattva. Alors quand le texte parle les dieux du monde temporel, c'est quoi le dieu de notre monde aujourd'hui ? Comment s'appelle-t-il ? L'argent, le veau d'or. C'est la valeur aujourd'hui qui détermine la valeur de l'individu. Or, est-ce que notre compte en banque, notre réussite sociale, notre réussite professionnelle, nos biens matériels, etc., même si c'est très utile et ça peut aider le confort, etc., est-ce que tout cela nous libère de façon ultime et définitive de toute forme de souffrance? Ça c'est ce qu'un pratiquant du Dharma doit se poser quand même comme question. Parce qu'il y a quand même pas mal d'attachements. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout bazarder et aller vivre en guenilles, en haillons et pauvrement, etc. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que nous devons travailler sur notre attachement. Alors, on ne peut pas prendre refuge de façon ultime dans ces éléments-là. Personne ne nie leur importance, la place qu'ils peuvent avoir dans notre vie. Mais on ne peut pas prendre refuge. Refuge, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous êtes en montagne et que vous cherchez un refuge, pourquoi cherchez-vous un refuge ? C'est qu'il y a un danger qui arrive. La nuit, le froid, la fatigue, mais on cherche un refuge. L'abri qui existe en montagne, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le refuge. Parce qu'on peut passer la nuit, on peut se réchauffer, on peut se nourrir, etc. On est à l'abri. Quel est le danger dans notre voie spirituelle ? La souffrance, le samsara, les causes de la souffrance. L'objectif du dharma, c'est la libération de la souffrance. Alors, est-ce qu'on en a marre de la souffrance ? Ça, c'est une autre question qu'on doit se poser. Et ce n'est pas facile de pouvoir y répondre, et surtout de maintenir la réponse qui, de temps en temps, nous paraît évidente, mais qu'à d'autres moments, ce n'est plus si évident que ça, Pourquoi? Parce que, comme disent les textes, nous sommes dans le samsara depuis des temps sans commencement. Eh bien, nous avons bien négocié avec la souffrance. Et nous nous sommes bien habitués à la souffrance. Et aujourd'hui, on accepte de souffrir et de voir les autres souffrir. Ça nous touche. Il y a quelquefois, quand on souffre un peu trop, là, on a envie de s'en sortir. Alors, on se rappelle que dans le dharma, il y a des éléments qui peuvent nous aider à nous en sortir, etc. Mais quand ça va à peu près bien, est-ce qu'on a vraiment envie de se libérer du samsara, c'est-à-dire de la confusion de notre esprit? Pas tant que ça. Donc il faut revenir là-dessus et se dire, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai vraiment envie de me libérer du samsara et de libérer les êtres du samsara? Parce que tous les êtres souffrent. Et tous les êtres sont en quête de cette libération. On cherche tous à être heureux, on cherche tous à se protéger. Alors en quoi peut-on vraiment prendre refuge, si ce n'est en les trois joyaux? En sachant que les trois joyaux, avec le Bouddha en premier, ce n'est pas le Bouddha historique. Bien sûr qu'il y a cette confiance qu'on peut attribuer au Bouddha historique, parce qu'il a montré le chemin il y a 2500 ans, etc. Mais le véritable refuge dans le Bouddha, c'est le refuge en nous-mêmes, en cette nature de Bouddha, en cette nature de sagesse que le Dharma décrit comme étant la nature de tout être vivant, et pas seulement de tout être humain, mais de tout être vivant. Pour nous occidentaux, ça c'est difficile. Parce qu'on conçoit toujours la perfection à l'extérieur de l'individu. Or, le Bouddha a tourné trois fois la roue du Dharma, c'est-à-dire qu'il a donné trois cycles d'enseignement. Le premier cycle, c'est 8 jours après son éveil, à Sarnath, à côté de Bénarès, les 4 nobles vérités. Premier cycle. Ce cycle-là forme la base de toutes les écoles. Le deuxième cycle, il l'a donné au pic des Vautours à Rajgir, pas très loin de Bodh Gaya. La vacuité, la nature de toute chose. On peut résumer ça par le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Avec comme résumé la Prajnaparamita, le sutra de la grande sagesse. Ça, c'est le deuxième cycle d'enseignement. Mais il a donné un troisième cycle d'enseignement sur la nature de Bouddha. Ce troisième cycle d'enseignement repose sur la présence, la démonstration de la présence de cette nature de sagesse en tout être vivant. Le Vajrayana, le bouddhisme tibétain, s'appuie essentiellement sur ce cycle-là. Alors, à Luce, on ne pratique pas trop le Vajrayana, pas encore, mais les anciens là, qui vont venir peut-être à Mahamudra 3 ou Weekend Vajrayana, il va bien falloir, une bonne fois pour toutes, comprendre que le Vajrayana propose des moyens pour développer cette nature de Bouddha que nous avons. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que si elles pratiquent Chenrezig, ce symbole qui représente l'amour et la compassion, eh bien, si elles le pratiquent, c'est pour devenir Chenrezig, pour devenir amour, pour devenir sagesse avec comme rayonnement amour et compassion. C'est archi faux. On pratique Chenrezig parce que nous sommes, tout de suite, ici, là, maintenant. Nous sommes Chenrezig. Nous sommes sagesse avec rayonnement d'amour et de compassion. Cette sagesse, elle est voilée. D'accord ? Mais cette sagesse, elle est là. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça. Vous ne pouvez pas prendre refuge dans le Bouddha sans découvrir votre Bouddha intérieur, votre nature de Bouddha. On a tous de l'amour, on a tous de la compassion. Prenez soin de ces qualités qui sont en vous, quoi. Ne vous dites pas, oui, mais je n'aime pas beaucoup de monde. J'aime cette personne, mais j'ai de l'attachement, j'ai du désir. Et alors, il y a de la boue avec tout ça, mais l'or est quand même là, quoi. L'amour est quand même là. La compassion, elle est là. On a tous de la compassion pour un proche qui souffre. C'est pas encore très vaste, c'est pas encore très équanime, je suis d'accord. Mais cette qualité de compassion, elle est là. C'est ça notre nature de Bouddha. Donc, il faut prendre soin de ça. Le matin, quand on se réveille, au lieu de se dire, ouais, il y a encore, tout de suite, j'écoute la radio, il y a encore des tueries, il y a encore ci, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, etc. Et de toute façon, avec ce que j'ai tout raté hier, bah, je ne vaux pas grand-chose, je suis nul, tellement médiocre, etc. Mais comment prend-on soin de notre nature de Bouddha en ayant cette vision de nous-mêmes, quoi? Alors vous allez me dire, mais c'est peut-être notre culture qui fait qu'on a cette vue de soi de cette façon-là, etc. Bah, allez faire une psychothérapie, hein. Je sais rien, mais bougez-vous, mais faites en sorte eh bien, que vous ayez conscience et confiance dans votre nature de Bouddha. Et ça, c'est indispensable, c'est le premier joyau. On prend refuge dans le Bouddha. Évidemment que pour développer cette nature de Bouddha, il faut une méthode. Alors là, on a besoin du deuxième joyau. On a besoin du dharma. Comment mettre en pratique cette méthode? Pas à pas, graduellement, je m'y entraîne de façon à ce que cette nature de Bouddha eh bien, puisse se développer. Et que les voiles qui l'empêchent eh bien, s'estompent. Et on a besoin du troisième joyau, la sangha, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le chemin, et notamment ceux qui sont un petit peu plus sur le chemin depuis un peu plus longtemps que nous, pour nous montrer, nous décortiquer des instructions, pour vraiment nous faciliter le cheminement. Mais ces deux joyaux, dharma et sangha, sont dépendants du premier, le Bouddha, c'est-à-dire notre nature de Bouddha. Et là, il y a tout un chemin à faire qui peut prendre du temps, parce que nous sommes formatés d'une certaine façon. Et on a du mal à ne pas considérer cette confiance dans notre nature de Bouddha comme de l'orgueil, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Si je me fais confiance, est-ce que je ne suis pas dans l'orgueil, quoi? Et observer tous les grands bodhisattvas sur la terre, avec ou sans étiquette, et peu importe, tout ce qu'ils ont accompli, eh bien, vous savez, ils avaient une grande confiance, ils avaient de la détermination, oui, mais ils avaient une grande confiance dans leur potentialité de réussir. Hein. Eh bien, un bodhisattva est quelqu'un qui a cette confiance dans sa potentialité de sagesse. Voilà, c'est pas très nouveau hein, pour les anciens, hein, le refuge dans les trois joyaux. Mais on a besoin de revenir à cela. C'est pas juste une petite cérémonie que l'on fait comme ça, puis qu'on oublie par la suite. On doit absolument maintenir le sens de ce refuge vivant dans notre esprit et tous les jours, quoi. Donc voilà pour ces trois strophes. Est-ce qu'il y a maintenant des questions?
J'ai une question, mais pas du tout sur l'enseignement.
Allez-y.
C'est sur le week-end Vajrayana.
Oui.
Vous allez nous donner éventuellement des instructions sur la pratique de Golden Shop.
Eh oui. Pas seulement. Des instructions aussi sur la méthode qu'est le Vajrayana. Vraiment, comment comprendre comment fonctionne le Vajrayana, le symbolisme qu'on retrouve dans le Vajrayana, pourquoi le sens de tel ou tel rituel. Le sens, par exemple, des initiations, des transmissions par initiation. Et puis, bien sûr, les personnes qui voudront avoir vraiment un yidam, eh bien, ça sera Korlo Dencho, puisque on a demandé à Mocho Rinpoche de transmettre cette initiation, parce que c'est un yidam, une pratique de l'Anuttara Yoga Tantra, c'est-à-dire de la catégorie des tantras la plus supérieure. Donc ce genre de pratique, alors on a un texte pour une pratique quotidienne, Mais quand vous avez ce genre de pratique en tant que Nidam, eh ben vous pouvez aller dans une grotte. Hein. Pourquoi à Mahamudra 3 on fait l'Ashididrup? Parce que l'Ashididrup c'est un guru yoga. Or, tous les textes vous diront, pour l'expérience du Mahamudra, pour l'expérience de l'actong, hein, de la vision pénétrante, de la nature de l'esprit, il faut une totale ouverture. Et cette ouverture, la plupart du temps, c'est le guru yoga qui la permet. C'est-à-dire, c'est cette dévotion, cette ouverture pour le principe que l'on se représente sous l'aspect du lama racine. Hein, mais c'est cette ouverture pour le principe qui fait que, dans cette ouverture, l'expérience s'élève. Je me souviens d'une personne, un jour, on avait un groupe chrétien qui était venu, et pratiquant, et qui était venu à Luce, et on discutait tout l'après-midi dans le temple, et une personne nous dit, vous n'avez pas Dieu, pas notion de Dieu, mais moi, j'ai la preuve que Dieu existe, puisque dans ma pratique, toute ma pratique passe par ma dévotion pour Dieu. Et dans cette pratique-là, eh bien, un jour, j'ai vraiment eu une expérience. Et je lui dis, alors, en quoi d'abord cette expérience prouve l'existence de Dieu? Et est-ce que ça n'est pas la dévotion qui fait que vous avez eu cette expérience? Et je pense que qu'on ait une dévotion pour Dieu, pour un yidam ou pour je ne sais pas quoi, le fait d'avoir de la dévotion ouvre totalement l'esprit. Et c'est pourquoi la dévotion est une des voies qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de voies spirituelles. Et effectivement, le christianisme enseigne la voie de la dévotion. L'hindouisme aussi, avec le bhakti yoga. Le vajrayana aussi. Et beaucoup de voies. Parce que ce rapport avec la divinité, entre guillemets, permet l'abandon, permet l'ouverture totale, et dans cet espace, alors, la saisie égotique disparaît, et l'expérience s'élève. Bhokha Rinpoche, par exemple, lors des séminaires en Inde, nous faisait vraiment réciter le mantra de Milarepa, de chanter le mantra de Milarepa, avant d'observer la nature de l'esprit. Quoi. Il préparait notre esprit par cette ouverture. Quoi. Donc que l'on fasse Mahamudra 3, l'Ashididrup, ça a ce sens-là. Vous savez, ça doit être... ça doit être, non, c'est assez jouissif le matin au réveil de se dire je suis Chenrezi, hein, ou Tara, ou ce que vous voulez, plutôt que je suis cette personne, oh, encore de l'arthrose ici, il faut encore que j'aille bosser, puis j'ai ça à faire encore aujourd'hui, etc. L'esprit est dans une autre perception de la journée qui s'annonce. Hein. D'autres questions?
Juste une question basique, puisque je suis néophyte. Vous avez parlé tout à l'heure de la jambe et de ce que ça représentait si on allongeait la jambe. Je me suis quand même questionné pourquoi la jambe en particulier.
C'est pas la jambe en fait, c'est le pied. C'est
le pied. Pourquoi le pied ?
Le pied en Inde, ben en fait, le pied est ce qui sale tout le temps. Parce que en Inde, on marche pieds nus ou en sandales. Donc le pied est toujours poussiéreux, plus ou moins propre, etc. Et c'est la partie la plus basse du corps, quoi.
On ne le prend pas pour dans le sens d'une relation avec le sol, par présent, l'importance de s'appuyer dessus pour...
C'est pas tellement... j'ai jamais vu ça, par exemple, en Inde. Évidemment, oui, ça peut avoir aussi ce sens-là, mais je n'ai jamais vu... En Inde, on se déchausse, par exemple, avant d'entrer dans chaque pièce, quoi. Parce que la chaussure est sale, quoi. La chaussure est en contact avec le sol. Mais dans notre culture aussi, d'une certaine façon, enfin, le Christ a lavé les pieds de ses disciples par humilité, quoi. Toucher les pieds de quelqu'un, il y a aussi une attitude d'humilité. C'est moins prononcé chez nous. En Inde, comment salue-t-on quelqu'un que l'on respecte? C'est très gênant pour nous, d'ailleurs, quand on nous salue de cette façon-là. On nous touche les pieds. Et il faut bénir à ce moment-là la personne. Eh oui. On touche la partie la plus basse de la personne. Rajesh, quand il dit bonjour à ses parents le matin quand il se lève, il ne dit pas bonjour comme ça. Il touche les pieds de son père, il touche les pieds de sa mère. Et son père et sa mère le bénissent. Quand on arrive à l'école, vous avez plein de gamins qui viennent toucher vos pieds, des profs qui viennent toucher vos pieds, etc. C'est assez, pour nous, c'est assez gênant, quoi. Hein? Mais c'est vraiment l'acte de respect, quoi. Par contre, un jour, j'ai touché quelqu'un avec mes pieds. En plus, c'était un brahman. Je peux vous dire que c'était insultant, hein. Je l'ai vu tout de suite, hein. Mais comme il y a plein de codes comme ça, hein. Quand on va en Inde, il faut connaître un minimum certains codes quand même. Mais manger avec la main gauche, toucher la nourriture avec la main gauche, donner quelque chose avec la main gauche, tout ça, c'est très insultant, quoi.
C'est social, c'est parce que...
C'est social, ça. Oui, puisque le Bouddha, à son époque, était révolutionnaire contre tous ces codes qui étaient devenus dogmatiques, et le Bouddha a cassé tout ça, puisque le nectar de sagesse, on le prend dans la main gauche, dans les rituels du Vajrayana. Il disait, la main gauche n'est pas plus impure que la main droite, c'est juste une construction, et on a traduit ça de façon dogmatique, quoi, enfin extrêmement rigide, quoi. Nous, on a peut-être d'autres valeurs, il faudrait réfléchir, mais on a peut-être d'autres valeurs établies de façon tout aussi dogmatique. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller dans ces pays-là, parce que on se rend compte que les valeurs ici qui nous paraissent tellement universelles, hein, on fait 8 heures d'avion, ça n'a plus cours où on arrive, quoi. Ils ont les leurs, tout aussi rigides que les nôtres, mais ils ont les leurs. Nous, on nous prend, mais pour des idiots, quoi, en Inde. Pas des idiots, des gentils naïfs, quoi. Des bonnets, quoi. Dans les restaurants, dans les boutiques. On est là constamment à dire merci, bonjour, au revoir. Et on s'en va d'une boutique. Thank you, goodbye, thank you. Il nous a rien donné. On remercie quelqu'un qui non seulement ne nous a rien donné, mais qui nous a vendu en nous roulant. Alors ils se disent, oh, ces Occidentaux, ils sont vraiment naïfs, quoi. Et c'est comme ça qu'on nous fait poireauter une demi-heure dans un restaurant avant de nous servir. Mais oui, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai appris tout ça avec Rajesh. Parce que je me souviens, on était au Sikkim avec un groupe une fois, et on va dans un restaurant, on poireaute. Vous y étiez. Ouais. Vous vous souvenez dans ce restaurant où on nous faisait poireauter une demi-heure pour nous apporter, pour prendre la commande, une demi-heure pour nous apporter les plats, enfin on en avait ras le bol. Le soir, on rentre à l'hôtel et dans la chambre, je dis à Rajesh, mais enfin vous supportez, vous les Indiens, qu'on vous fasse poireauter comme ça? Il dit, mais on poireaute jamais. Je dis, mais pourquoi on nous fait attendre comme ça alors? Ah, ben parce que vous, on se permet de vous faire attendre parce que vous n'allez pas râler de toute façon. Et puis vous êtes tellement un peu gnangnan, quoi, stupide. etc. Alors je dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on nous perçoit comme ça? Eh bien, quand vous arrivez dans un restaurant, vous êtes là, good evening, etc. Il me dit, observe les Indiens quand ils entrent dans un restaurant. C'est au serveur de saluer le client. C'est pas le client qui doit saluer tout le monde comme ça. C'est au serveur de saluer le client. L'Indien, il rentre, il fait good evening. Puis il va s'asseoir. C'est tout. À l'école, Rajesh m'a dit, mais tu casses toute ma baraque, quoi. Parce que les gamins sont là comme ça devant nous. Et nous, namasté, namasté. Aussi bas que. Mais on a tout faux, quoi. Alors Rajesh me dit, t'es comme ça devant les profs, donc ça veut dire que t'es égal avec les profs. Or, tu plaisantes avec moi. Donc les profs vont penser qu'ils peuvent plaisanter avec moi. Et ça démolit tout son... La hiérarchie, c'est très hiérarchisé, la société indienne. Il faut comprendre ça, c'est... Ouais, c'est très surprenant. Au début, c'est... Pour nous, c'est être poli, quoi, tout simplement. C'est difficile de laisser tomber notre jeu et de rentrer dans le jeu qui est valable à ce moment-là, ici. Voilà. Rien d'autre ? J'ai les dates pour... vous les avez, les dates pour jusqu'au mois de juin ?
Non.
Vous les voulez ? Vous allez recevoir ça, trouver ça sur le site et puis le programme qui va vous être envoyé. Mais je vais déjà vous donner les dates. Janvier.
24 janvier.
Oui.
Pour aller à Luz, oui, vous expliquez parce qu'on ne connaît pas.
Oui.
Comment ça se passe? Pas pour y aller, mais quand on est là-bas, je m'entends.
D'accord. Alors je donne les dates et puis je vous réponds après. 24 janvier. 21 février. Alors, je suis en Inde tout le mois de mars. Donc, c'est Orgen qui viendra au mois de mars. 21 mars. 25 avril. 23 mai. 20 juin. Et alors, une fois qu'on est à Luz...
Excusez-moi, c'est les dates de quoi ?
Des enseignements mensuels, voilà.
C'est ça sur le net ?
Oui, oui, oui. Alors, comment ça se passe à Luz ? Alors, vous avez 3 méditations quotidiennes. Quand vous venez, vous n'êtes pas obligé de venir aux méditations communes. C'est vraiment comme vous voulez... C'est surtout, je dirais, vous vivez par rapport à ce qui est le mieux pour vous, quand vous venez à Luz. Donc il y a 3 méditations quotidiennes, de 8h à 8h40, de midi à midi et demi, et de 17h30 à 18h. Toute la matinée est consacrée à la pratique et à l'étude personnelle. Donc les moines, on reste un moment dans le temple entre nous, après la méditation, mais chacun poursuit sa matinée seul dans sa chambre, en train de méditer ou d'étudier. Celui qui est de cuisine, il descend ce jour-là, un des moines qui est de cuisine, il descend ce jour-là faire la cuisine, voilà. Ensuite, il y a donc la méditation de midi à midi et demi, puis il y a le repas, et après le repas, on travaille... Mais ça, c'est pour les résidents, c'est pas pour les personnes qui sont là. Nous, on travaille de 14h30 à 17h30 pour le centre. Donc, on a tous nos trucs à faire pour le centre. La personne qui est là, elle peut continuer de lire, d'étudier, d'aller se promener, si elle souhaite aller se promener en forêt. Elle peut participer à des travaux l'après-midi si elle veut participer. Il n'y a aucune obligation. Elle construit un petit peu sa journée, si vous voulez, comme elle veut. Et puis, après la méditation de 17h30 à 18h, bah, on est comme en maison de retraite, on mange à 18h. Et puis, la soirée est libre. Donc, le moine qui veut méditer encore, eh bien, il est dans sa chambre. S'il veut étudier, il peut étudier. S'il veut se reposer, s'il a besoin de se reposer, il est reposé, sauf le plus vieux qui, en général, enseigne à droite, à gauche. Le plus vieux, c'est moi. Et voilà, lui... Voilà. Mais ça se passe comme ça, si vous voulez, en semaine. Sauf le lundi. Où le lundi, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a même pas quelqu'un qui prépare la cuisine. Si vous êtes là le lundi, eh bien vous allez piquer dans le frigo et vous faites votre repas. Mais le lundi, c'est vraiment notre seul jour de repos. Et on appelle ça la journée de désert, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, quoi. Voilà. Et puis le week-end, par contre, là, il y a des horaires un petit peu différents parce que la plupart des week-ends, il y a des stages de méditation qui sont proposés avec enseignement. Et là, les gens viennent. Donc, il y a un peu plus de monde le week-end. Il peut y avoir 25 personnes le week-end. La semaine, je trouve que c'est idéal parce que c'est très calme. Il n'y a pas grand monde. Il y a toujours deux ou trois personnes qui sont en retraite pour quelques jours, etc. Mais c'est très calme. On est en pleine montagne, on est au milieu de la forêt, avec une vue sur la vallée immense. Et en trois pas, on est dans la forêt, sur un chemin qui nous conduit en forêt. Donc on peut vraiment profiter aussi de la nature, quoi.
Voilà. Quand on est dans la semaine, quand on est dans la semaine, est-ce qu'on peut avoir des enseignements?
Des
suivre des enseignements.
À ce moment-là, il n'y a pas d'enseignement, il y a un enseignement mensuel comme ici, mais après, on demande à discuter. Et à ce moment-là, il y a des entretiens et on voit et on discute ensemble et le temps qu'il faut, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est très personnalisé, si vous voulez, comme séjour. Voilà. Et je tiens à ce que ça reste ouvert, et pas seulement à des personnes bouddhistes, mais que ça reste ouvert parce qu'il y a des personnes qui peuvent traverser quelque chose de difficile dans leur vie et qui ont besoin de faire le point, d'être au calme, d'être en silence, ou simplement d'échanger un après-midi avec un des moines ou le lama parce qu'ils ont besoin de parler, etc. Et il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans le dharma, mais qui s'y trouvent bien en venant parce que bah, elles ont besoin de ça, parce qu'elles viennent de perdre quelqu'un, etc. quoi. Et c'est à 45 minutes, 50 minutes de Colmar. Ouais. C'est pas très loin, quoi.
Voilà. Avec le tunnel, c'est pratique.
Avec le tunnel, c'est pratique, oui. Ouais, absolument.
Été comme hiver.
Puis en plus, le chemin maintenant est goudronné, donc...
Et on peut se faire chercher, ça n'a pas de moyen de transport.
Et on peut y aller en train, la gare la plus proche, c'est Provenchères, mais comment on y vient depuis Colmar, Provenchères?
Depuis Colmar, il faut prendre le train jusqu'à Strasbourg.
Ah bah oui.
Et de Strasbourg, prendre le train...
Non, il y a une autre, y a une autre façon.
Il y a le bus...
Célesta Saint-Dié, il y a le bus Célesta Saint-Dié. Et à ce moment-là, on va vous chercher. Oui, mais on va vous chercher à Saint-Dié aussi, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai.
Donc j'ai vu qu'il y avait un site.
Oui.
Et donc si on est intéressé, on téléphone pour demander pour les jours.
Oui, voilà. Ouais. Par mail ou par téléphone. Téléphoner le matin maintenant, hein, puisque Sacha est la directrice administrative du centre. Elle est là tous les matins, sauf le lundi, toute la journée, sauf le lundi. Donc, elle répond au téléphone. Et l'enseignement, eh bien, vous avez les enseignements du mois passé sous forme de CD pour la boutique, mais vous les avez aussi sur le site, que vous pouvez écouter sur le site. Donc, les enseignements précédents, ils sont en ligne sur le site, je crois. Voilà. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.
Merci.